One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est podcasting et marketing en ligne. Je suis votre hôte, Safia Gouhari, et je fais de ma mission d'aider les entrepreneurs du web à vivre de leur activité. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à vous préparer à enfin changer les choses. Bienvenue dans l'épisode 209 du podcast Build Yourself. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec une interview sur un sujet, une thématique que nous n'avons jamais abordée sur ce podcast et qui est le closing. Le closing est une stratégie de vente qui est très souvent pratiquée pour des programmes premium. Un entrepreneur va avoir recours à un ou une closer pour clôturer, fermer la vente. En gros, ce sont des personnes qui vont passer des appels avec des prospects, comme des appels découvertes, hein, et qui vont être là pour voir si la personne est un bon fit pour le programme et surtout lui donner envie de le rejoindre. Je ne pratique personnellement pas cette stratégie, mais je l'ai déjà vécu en tant que cliente et j'ai toujours trouvé ça très intéressant et eu envie d'aller creuser un peu plus. Et ça tombe bien puisque notre invité du jour a été une closeuse pendant plusieurs années. Il s'agit de Candice Perrac-Rosière, qui est la fondatrice de Même Moi et l'autrice du livre « Vous êtes capable et non coupable ». Dans cet épisode, vous allez découvrir son parcours et ce qui l'a amené à se lancer à son compte et surtout à opter pour un métier du web. Et ensuite, vous découvrirez un peu comment s'organisent les appels de closing, le rôle du closer. Et je pense que ça vous aidera aussi à déterminer si vous avez envie d'opter pour cette méthode-là ou si au contraire, c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas forcément pour vous. Quoi qu'il en soit, eh bien, je vous souhaite une très belle écoute. Salut Candice! Bienvenue sur Build Yourself.
Salut Safia.
Comment tu vas ?
Ça va super, merci beaucoup. Et toi, comment vas-tu ?
Ben, très bien, contente de t'accueillir pour parler de plein de choses, qu'on n'a jamais abordées ici, donc je suis très enthousiaste à cette idée.
Moi aussi, et je suis très honorée d'être ici parmi vous tous.
Mais c'est un plaisir. Alors tu es la fondatrice de Même Moi, et tu es également auteure d'un livre qui s'appelle « Vous êtes capable ». Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à te lancer à ton compte sur le web ?
Bien sûr, avec plaisir. Alors déjà, vis-à-vis de moi, très rapidement, je vais avoir 28 ans cette année. Je suis d'origine vietnamienne. J'ai été adoptée en 1994. J'ai deux parents qui sont français. On est dans le sud de la France. Ça s'entend d'ailleurs à mon accent. J'ai vécu donc toute mon enfance et mon adolescence en Aveyron. On allait chercher ma petite sœur lorsque j'avais 2 ans, qui elle est colombienne. Et voilà, on a grandi, on va dire, assez paisiblement. Et en fait, bah, voilà, mon avenir était plus ou moins déjà tracé. Je ne savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie. Donc, je faisais toujours quelque chose de très générique. J'ai fait beaucoup de voyages et ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a donné beaucoup d'ambition. Mais malgré tout, J'ai fini par avoir un CDI dans les ressources humaines, comme beaucoup en France, et c'était quelque part la fierté de certains. Et puis, voilà, je sais pas, un jour, je rentre chez moi, je me mets à pleurer, je me rends compte que c'est plus possible, que je peux pas faire ça pendant 40 ans encore, c'est pas possible. J'ai beaucoup d'admiration envers mes parents et les générations précédentes de voir qu'eux, ils l'ont fait, mais je me sentais... C'est pas que je me sentais pas capable, mais je me disais qu'il y avait d'autres choses qui m'attendaient. Mmh. Alors j'ai fouillé sur Internet et j'essayais de trouver le métier de mes rêves. J'avais la sensation qu'il n'existait pas et que tant pis, un jour je serais maman et ce serait ça le métier le plus merveilleux pour moi. Et puis un jour j'étais en train de jouer aux jeux vidéo avec des amis et l'un me dit qu'il est closer. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce métier ? Et en fait je suis, on le verra probablement par la suite, mais donc je me suis mise en tant qu'entrepreneur il y a maintenant bientôt 3 ans. Et je me rappelle encore d'une phrase que ma grand-mère me disait, c'est « Mais Candice, comment tu vas faire ? Tu te mets entrepreneuse, mais si jamais ça marche pas, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et ça me fait beaucoup sourire parce que c'est ultra bienveillant. Et à la fois, ça montre aussi à quel point on a été conditionnés en France à faire tous la même chose. Et la réussite aujourd'hui, c'est le CDI. Ça va changer. C'est déjà en train de changer, mais il n'y a encore pas si longtemps, c'était le CDI. Et aujourd'hui, très contente d'être avec toi en tant qu'entrepreneuse. Très, très fière.
Ben, moi aussi ça me fait plaisir, d'autant que comme tu le dis en fait la société est vraiment en train de changer et on sort un peu du schéma réussir dans la vie pour réussir sa vie, tu vois, et vraiment s'attarder sur soi en tant que personne, chose qu'avant n'était même pas envisageable au final. Et c'est pour ça que nos parents ont des jobs salariés pour la plupart et se sont cantonnés à ça et se sont jamais demandé s'ils aimaient leur job ou pas. C'est qu'en fait avant tu devais réussir dans la vie. Et c'est ce qui importait, et c'est bien qu'on puisse nous changer le discours maintenant, avant de connaître le closing. Et quand t'as réalisé finalement que le job que tu faisais, il te plaisait pas du tout, est-ce que t'avais une idée de ce que t'avais envie de faire ?
Ouais, je rêvais d'être psychologue.
Ah ouais ?
J'ai toujours rêvé de ça, j'aurais adoré, et j'ai trop écouté les autres, j'ai eu trop peu confiance en moi, et on m'a dit que c'était bouché, et qu'en plus de ça, j'étais une éponge. Et que le soir en rentrant, je pleurais quand même. Et donc, je sais pas, je l'ai pas fait, j'étais pas très studieuse. Donc, le moins de cours que je puissais faire, c'était bien pour moi. J'entendais parler de la fac et du coup, ça m'a... Je sais pas, je l'ai pas fait. Mais ouais, psychologue, ça m'aurait beaucoup plu. Le contact avec l'humain, les relations humaines, c'était vraiment ce que je voulais faire.
Alors du coup, t'as commencé dans l'entrepreneuriat en tant que closeuse ?
Oui, c'est ça, tout à fait. Pour deux clients.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le closing ?
Avec plaisir. En fait, je pense qu'il y a mille et une possibilités d'expliquer en quoi ça consiste. Mais en gros du gros, dans les faits, un closer, on lui délègue une entreprise ou une personne qui a un accompagnement de coaching, par exemple, la plupart du temps à distance. Eh bien, il va déléguer la partie vente et recrutement de ses coachés. C'est-à-dire que lui, il a déjà sa zone d'expertise, qui est le coaching, et il n'y connaît rien, ou ça ne lui plaît pas, ou il n'a pas suffisamment de temps pour pouvoir vendre ses propres accompagnements. En revanche, le closing, à la base, on a souvent dit qu'il n'avait aucune prospection, c'est-à-dire que, à l'inverse des justement commerciaux qui ont l'habitude de prospecter, de faire du porte-à-porte, ou de faire du phoning, ou de faire du cold-calling, eh bien, dans le closing... on est un peu plus gâté, c'est-à-dire qu'on va avoir des leads, c'est-à-dire on va avoir des personnes qui sont d'ores et déjà intéressées par un accompagnement, par exemple, et ces personnes-là vont fixer des rendez-vous sur nos agendas à nous. Au téléphone, donc, on va avoir le devoir d'analyser, d'apposer un diagnostic sur la situation des personnes qu'on a au téléphone pour savoir si, oui ou non, l'accompagnement avec lequel on travaille, en qui on a confiance, eh bien, il est adapté pour ce prospect ou pas. La plupart du temps, un closer, il va travailler donc pour des accompagnants qui sont entre, j'ai envie de dire, entre 800 à 1000 euros, jusqu'à 10 000, 15 000, 20 000 euros. Et on est payé à la commission.
Ok. Plusieurs questions me sont venues en tête. la première, c'est qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier ?
En fait, ce qui m'a plu, c'est que quand j'ai fait des recherches et quand j'ai vu le premier interview là-dessus, et il y a 3 ans, il n'y en avait quasiment pas, j'ai cherché longtemps avant de comprendre ce que c'était, eh bien, j'avais vraiment la sensation qu'il y avait à la fois des échanges, du contact avec l'humain, il y avait de la psychologie, il y avait du commerce, c'était quand même mes études de base, et puis il y avait aussi ce côté bienveillant, prendre soin de l'autre. Dans la psychologie, quelque part, c'était je voulais pouvoir aider mon prochain. Et en fait, moi, je suis pas très fan des piqûres, par exemple. Donc, je me disais, je peux pas être infirmière, ni être soignante, ni médecin. L'humanitaire, je me disais, y a pas beaucoup de stabilité. Et à ce moment-là, je sais pas, ça me faisait peur de toujours être en voyage. Et j'avais la sensation, en fait, qu'aucun métier ne pourrait me permettre d'aider mon prochain. Et dans le closing, j'ai enfin vu cette possibilité d'aider notre prochain. Dans le closing, on en a parlé... Voilà, la dernière fois qu'on a discuté ensemble, Safia, et on disait que le closing, c'était un peu avis controversé. Il y a des personnes qui ont un avis assez négatif sur ce métier. En fait, je dis souvent qu'on devient la personne qu'on a envie d'être. Et c'est simplement, quand j'ai mes appels de closing, je reste fidèle à moi-même et c'est moi qui décide comment va se passer mon appel. Donc oui, il doit y avoir des closers qui ne font pas forcément un travail éthique, mais comme il y a des commerciaux qui ne sont pas éthiques et des personnes déjà dans la vie de manière générale qui ne le sont pas. Et en revanche, le closing, ça nous permet vraiment de pouvoir bouleverser, de pouvoir challenger quelqu'un, parce que c'est des personnes quand même quelque part qui viennent se faire bousculer, se faire challenger, autrement ils n'auraient pas pris un appel. Et notre objectif, c'est vraiment de les faire sortir de leur zone de confort. Parce que la plupart du temps, ils sont dans cette zone de confort depuis tellement de temps qu'ils n'arrivent plus à en sortir. Donc, l'objectif, c'est absolument pas les caresser dans le vent du poil, ni d'être amis avec eux.
Ouais.
Au contraire, c'est vraiment même de s'oublier, d'être pleinement à l'écoute de cette personne et presque en fait d'être dur avec cette personne et d'être très objectif envers lui, quitte à ce que la personne ne nous aime pas. Donc, on ne doit pas faire ce métier pour chercher à être aimé. Parce qu'on ne sera pas aimé. Mais en revanche, je dois le chercher pour challenger quelqu'un parce que, bah, logiquement, nous aussi, quelqu'un nous a sortis de là et donc on veut faire la même chose de notre côté dans le closing.
Oui, mais au final, tu vois, je le comprends parce que c'est vrai que en tant que closeuse, tu travailles pour vendre le produit de quelqu'un d'autre et la personne qui te contacte pour avoir un appel avec toi, c'est une personne qui est déjà intéressée par le produit. Donc, potentiellement, elle sait qu'elle est intéressée par la chose, que c'est bon pour elle, mais il y a encore toutes ces pensées limitantes et toutes ces excuses et toute sa zone de confort qui viennent un peu l'empêcher de sauter le pas. Et du coup, c'est à toi finalement de déconstruire tout ça. Mais est-ce que c'est pas aussi, est-ce que c'est pas difficile, tu vois, d'être confronté à ce genre de choses? Alors, je sais que c'est un métier que tu adores et que tu réussis bien et qui t'a permis d'avoir une très belle situation financière et d'évoluer et de construire plein de choses derrière, mais est-ce que c'est pas finalement difficile d'être face aux gens et à leurs peurs constamment, ou est-ce qu'au contraire tu remarques que c'est un peu tout le temps la même chose, que le schéma est assez répétitif et que du coup maintenant t'es bien armée pour gérer tout ça?
Ouais, j'aime beaucoup cette question et puis c'est vrai qu'elle fait sens en moi. Je pense que si, il y a quand même toujours de la difficulté et quelque part tant mieux. Ouais. Parce que ça me challenge aussi. Je pense que le closing, c'est un véritable outil de développement personnel et ça m'a aidée sur beaucoup de points. Je rencontre tous les jours des parcours totalement différents, des profils atypiques, des personnes avec des témoignages très poignants. Et le soir, finalement, j'en ai aussi gros sur la patate quelquefois parce que je reste une éponge et donc j'éponge un petit peu tous les témoignages que j'ai. Mais en revanche, c'est vrai que la plupart du temps, toutes ces personnes ont des croyances limitantes, ont des doutes, ont des peurs. En revanche, il ne faut pas oublier que en fait, si toi en tant que closeuse tu es pleinement épanouie dans ta vie de femme, dans ta vie professionnelle et personnelle, eh bien quelque part tu seras sujet à avoir beaucoup moins d'objections qu'une personne closeuse qui n'est pas épanouie dans sa vie. Mmh. En fait, on projette nos propres objections sur les autres. Admettons tout bêtement, si moi j'ai l'habitude de demander une garantie lorsque j'achète quelque chose, eh bien très étrangement, dans ma façon de closer, à la fin de l'appel, la personne va elle aussi me demander s'il y a une garantie. Et je vais tellement comprendre cette question, étant donné que moi je la pose aussi, que je vais être beaucoup plus souvent sujette à avoir ces objections. Et dans les formations de closing, aujourd'hui, c'est dommage parce qu'on nous apprend à traiter les objections, or il ne faut pas savoir les traiter, il faut savoir même les anticiper. Mmh. Et parfois, les personnes pensent qu'il faut faire comme une partie de ping-pong. Il me dit ça, je dois lui répondre ça. Or, c'est pas du tout ça. Le closer qui attend et qui se prépare déjà à avoir des objections à la fin, eh bien, il va les attirer et bien évidemment, il va donc avoir des objections à la fin.
Je vois
donc
totalement.
Donc, un closer, il doit vraiment vivre d'abondance.
Ouais, mais tu vois, je vois totalement ce que tu veux dire parce que j'ai déjà eu affaire à des closers et j'ai vu tout de suite ceux qui avaient un protocole et qui suivaient un template, etc. Et ceux qui étaient plus spontanés et naturels, tu vois. Donc quand tu le dis là, je me dis, mais oui, en fait, c'est vrai. On fait totalement la différence. On le ressent aussi, tu vois, d'un point de vue extérieur.
Totalement.
Mais tu vois, c'est intéressant de faire référence à cette notion d'abondance à la fois dans ta position de closeuse, puisqu'effectivement, tu vois, on y pense dans le mindset et surtout par rapport à l'argent, finalement. Mais l'abondance, c'est vraiment quelque chose qui s'adapte à n'importe quel aspect de notre vie et de notre activité de manière générale.
Ouais, c'est très clairement. Et puis en plus, c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai pas compris comment en fait on pouvait vivre d'abondance alors que je manquais de plein de choses. Et en fait, je me suis aussi rendu compte, et c'est un de mes mentors qui m'avait dit ça, il faut savoir sauter, en fait, sauter le pas, et le filet de sauvetage, en fait, il va pas arriver avant de sauter. Mais dès l'instant où on saute, et bien le filet de sauvetage, il est là pour nous rattraper. Et quelque part, en fait, ça m'a beaucoup parlé ce qu'il m'avait dit, parce que je me suis toujours sentie, en tout cas toute mon enfance et mon adolescence, sentie en manque d'affection, en manque d'amour, en manque d'argent, en manque de plein de choses, et j'avais jamais rien, et je suppliais, je priais, j'essayais de trouver des signes, j'essayais de plein de techniques et de stratagèmes pour pouvoir avoir plus. Et ce n'est que lorsque je me suis rendu compte que j'étais aimée, que je me sentais bien, que j'étais reconnaissante, que j'avais de la gratitude, et que vraiment je me conditionnais à vivre d'abondance, que ben, l'abondance est venue à moi, et quelque part j'étais beaucoup plus, encore une fois, ouverte à voir tout le positif autour de moi.
Ouais, je fais le lien avec ton livre, du coup vous êtes capable, que j'ai eu la possibilité de lire avant notre échange, et c'est vrai que t'as une histoire de vie et un parcours, alors je vais pas spoiler, parce que c'est mieux que vous alliez lire le livre directement, en plus il est disponible vraiment à prix très accessible, mais c'est vrai que tu as un parcours de vie qui est assez difficile, comme tu l'as dit au début, bah, tu as été adoptée, et donc tu mentionnes effectivement le fait que ça voulait dire aussi que tu avais été abandonnée. Enfin, tu vois, t'es transparente, t'as parlé du fait que t'avais été en dépression, que t'avais été en hôpital psychiatrique, etc. Est-ce que, alors c'est peut-être, je sais pas si c'est la bonne formulation et je m'excuse si c'est mal fait, mais est-ce que c'est pas le closing aussi qui t'a aidé dans cette démarche de dev perso, ou est-ce que tu le faisais déjà avant, ce métier-là ?
Je dirais que le closing m'a permis d'avoir confiance en moi, parce que il y a encore quelques années, j'avais la sensation de ne servir à rien, de ne mériter rien, et lorsque j'ai attaqué le closing, on m'a fait confiance. On me disait, quelque part, on me disait oui à un accompagnement, mais on me disait oui à moi. Le closer a la possibilité, malheureusement, de décloser quelqu'un, c'est-à-dire de dégoûter la personne, ou de, voilà. Et en fait, j'ai pu suivre l'évolution de toutes ces personnes. Le closer, il a le choix, en fait, hein. Il peut très bien être un closer qui simplement fait le deal, fait une vente, obtient la commission, et puis basta. Ou il a aussi la possibilité de, malgré tout, garder un lien assez important, assez proche, avec toutes les personnes qu'il a closées, ce que, en tout cas, je fais. Alors, ça me prend du temps, peut-être, mais c'est quand même très important pour moi, déjà de un, parce que je close encore plus, puisque je vois tous les résultats de toutes les personnes que j'ai closées, j'ai encore plus de conviction vis-à-vis des résultats de l'accompagnement. Et puis, oui, c'est sûr que ça me donne de la confiance en moi, et je reçois, moi, la première, beaucoup de gratitude, et je pense que ça m'a fait pousser des ailes, c'est sûr, ça m'a rendu capable de plein de choses.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, pourquoi est-ce que, entre guillemets, c'est utile pour les entrepreneurs d'avoir recours à une closeuse ou un closer ? Moi, le premier avantage que je vois, c'est notamment pour les personnes qui n'aiment pas vendre, qui n'ont pas le temps pour ça, etc. Bah, c'est bien de déléguer cette partie-là. Mais peut-être que toi, tu as aussi peut-être d'autres arguments en faveur du closing.
Oui, donc effectivement, c'est voilà, un gain de temps, un gain d'énergie. Et puis, on est tous là à dire que au début, quand on est entrepreneur, il faut savoir tout faire. En tout cas, moi, je crois en ça. C'est très important de pouvoir avoir toutes les flèches de son arc. En revanche, on n'est pas expert dans tous les domaines. Et à un moment donné, quand notre business, il est en bonne activité, il est sur la bonne voie et il évolue bien, il faut savoir déléguer. Donc, il faut savoir déléguer toutes les choses qu'on n'aime pas faire et se focaliser sur toutes les choses sur lesquelles on adore et sur lesquelles on est excellent. En revanche, après, ce qui est super, c'est aussi d'avoir tout simplement un collaborateur, un closer, en fait. En tout cas, pour moi, un excellent closer, c'est un closer qui choisit de closer un accompagnement dans lequel il est fan. Il faut qu'il soit amoureux de cet accompagnement et qu'il ait une excellente entente avec son client. Aujourd'hui, les clients avec qui j'ai travaillé, on s'est vu dans la vraie vie. J'en ai qui viennent à mon mariage cet été. On est très très proches. Et donc, c'est aussi un superbe lien qui se crée. Et je pense que, voilà, déjà en tant que client, on reste des personnes humaines. Ils ont eux aussi des fois des doutes. et ils ont quand même quelqu'un sur qui ils peuvent s'épauler, et nous, closers, on peut s'épauler sur le client. Donc il y a aussi une amitié qui se crée, une belle collaboration, il n'empêche pas qu'on reste professionnel, qu'on sait mettre de la distance, mais voilà, c'est de très très belles collaborations. En tout cas, on a la possibilité d'en créer de superbes.
Ok, écoute, c'est hyper intéressant pour moi, puisque tu parlais de rémunération, et notamment à la commission. Est-ce que tu as une idée des fourchettes qui sont pratiquées pour que les auditeurs et auditrices puissent avoir une idée de l'investissement que ça pourrait être ?
Bien sûr. En fait, donc, un closer, il a, lorsqu'il est débutant, on va dire, sortant de formation, entre 10 et 15% maximum de commission sur le prix d'un accompagnement, sachant que les prix ils varient donc entre 500 et plus, à des dizaines de milliers d'euros. En revanche, souvent, ce qu'on dit en sortant de formation, un bon closer, il va faire un taux de conversion d'environ 30-35%.
Ok.
En tout cas, ce serait plus ou moins l'idéal. Donc, ensuite, un closer, il faut se dire qu'il fait son propre agenda, pardon. Et donc, l'idéal, c'est de ne pas faire plus de 4-5 appels par jour. Les appels sont extrêmement énergivores, ouais. On ne s'en rend pas compte. Mais prendre 10 appels, par exemple, je pense que ça nous dessert plus et qu'on en perd encore plus qu'on pourrait en gagner. Et donc, les tranches, je dirais qu'un closer, je connais peu de closers quelque part qui gagnent le SMIC, clairement. En revanche, attention, ne pas se dire non plus que c'est la poule aux œufs d'or, ne pas se dire que c'est le métier de rêve pour tout le monde, ne pas se dire qu'on peut du coup être millionnaire en étant closer, c'est pas ça. J'ai effectivement gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Je suis même arrivée, et je m'en cache pas, même arrivé à plus de 30 000 euros de commission par mois net pour moi. En revanche, j'étais pas heureuse, j'avais plus de vie, je me disputais avec mon conjoint, j'avais le temps de rien, et c'est pas une vie, et l'argent ça rend pas heureux quand c'est dans ces conditions. Et aujourd'hui, en fait, je fais des revenus qui sont beaucoup plus corrects, on va dire, mais parce qu'on a chacun notre propre définition de la réussite. Moi, ma réussite, elle se trouve pas dans l'argent, elle se trouve dans l'amour que j'ai, et dans la participation au bonheur des personnes que j'aime. Et donc oui, il y a de grandes possibilités d'évolution pour un closer. Et un closer, souvent, il peut aussi devenir chef des closers, il peut devenir coach, il a vraiment plein de possibilités d'évolution. Et ensuite, on a des commissions qui peuvent arriver jusqu'à 30%.
D'accord. Mais écoute, c'est hyper intéressant, et c'est bien que tu mentionnes le fait que certes, ça peut être juteux, mais que parfois, le prix à payer n'en vaut pas forcément le coup.
Oui, tout à fait, c'est clair.
Alors justement, ça me permet de faire le lien avec ma question suivante, puisque tu parlais de ces commissions et du fait que tu avais très bien gagné ta vie à un moment donné. Tu la gagnes toujours bien, mais voilà. Ça veut dire que tu es douée en vente. C'est quoi les conseils que tu aurais à donner pour les entrepreneurs qui nous écoutent, pour être plus à l'aise avec la vente, mais d'un point de vue mindset, dans un premier temps?
On préfère bien évidemment tous acheter plutôt que d'être vendu. Ça, je suis d'accord. En revanche, il y a des manières de faire. On peut très bien avoir justement des mauvaises manières de faire et du coup faire très vendeur. Mais il y a aussi tout plein de possibilités de se dire tout simplement dans notre tête, mon accompagnement, il a de la valeur. Je le sais, j'en suis convaincue. Je peux aider des personnes et je le sais. Et si on a cette conviction, c'est plus même une opportunité et rendre service à ces personnes qu'en fait les embêter à vendre. C'est pas ça. Si on a clairement la conviction que ce qu'on fait, c'est génial et qu'on est mieux que les autres concurrents, je vois pas pourquoi on aurait peur, quelque part, de vendre notre accompagnement. C'est une chance, c'est une opportunité. Et du coup, il faut être vu au plus grand nombre, tout simplement. Donc, bien sûr, c'est une croyance limitante et bien sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens à 100%. Mais ça peut se faire par des toutes petites tâches d'abord, avant même de déléguer. Effectivement, il vaut mieux essayer de s'y tenter et de le faire. Et on peut commencer par des petits messages de prospection, mais ne pas dire que c'est des messages de prospection. Le mot prospection, aujourd'hui, il fait peur. Il a été tellement, modifié à différentes sauces qu'il fait peur. Mais on peut aussi juste prendre contact avec des personnes pour simplement échanger sur nos business et puis commencer à faire du troc ou si jamais vraiment la vente, ça fait peur, peut-être tout simplement se dire que nous aussi, les premiers, on a besoin d'acheter certaines choses et... Non, je me suis mélangée. En fait, c'est bizarre. J'ai l'impression presque que la vente, c'est dans mon ADN et du coup, j'ai du mal à vraiment exprimer. Et pourtant, j'en ai plein des conseils. Là, ils ne me viennent pas. Mais en fait, encore une fois, on a chacun notre propre définition de la vente. C'est comme on a notre propre définition de la réussite et de la normalité. C'est juste une perception. Et donc, en fait, il faut déjà juste se libérer de ça. C'est, s'il n'y avait pas de vente, en fait, on ne pourrait pas vivre, il n'y aurait pas d'économie, etc., etc. On peut aller très loin là-dessus. Et en soi, ce serait presque... comment dire ? Ce serait presque triste, en soi, de ne pas faire connaître nos accompagnements aux autres. On serait presque égoïste, en fait, parce qu'on a chacun une zone d'expertise. On a la possibilité d'aider beaucoup de gens. Mais en revanche, si effectivement, on ne vend pas nos accompagnements, on ne pourra pas les aider. Donc, quelque part, voilà, c'est... je peux te dire que c'est aussi simple que ça, mais non, je sais que ce n'est pas simple. On en parlera une autre fois.
Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Mais je vois ce que tu veux dire quand tu dis ça, effectivement. C'est vrai que c'est important de prendre conscience de sa valeur et de ce qu'on a à apporter aux gens et de se dire, je fais, ok, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les autres et pour les aider à avancer sur un point spécifique ou surmonter tel obstacle. Et d'un point de vue... finalement, stratégie. Est-ce que toi, il y a des choses que tu mets en pratique ou mets en avant quand tu es en phase de vente ? En fait, je me dis que c'est surtout de la conversation, finalement, le closing, et c'est le fait de comprendre la personne qui est en face de nous pour ensuite l'aider à décider si, oui ou non, c'est une bonne décision pour elle d'investir dans le programme. Si j'ai bien défini le closing.
Oui, oui, oui. Non, c'est ça. En fait, après, en soi, on a tous plus ou moins un script, un plan. Il y a des personnes qui ont un script qui fait 15 pages. Moi, j'ai simplement un plan avec quelques étapes. Je peux même te le partager, vous le partager.
Écoute, avec plaisir.
Le premier point, c'est expliquer le déroulé de l'appel. Et quand je dis dérouler l'appel, en fait, c'est au-delà de juste dire « je vais apporter de la clarté dans notre appel », c'est lui expliquer exactement comment cela va se passer de A à Z. Donc en lui expliquant que j'ai besoin de savoir où est-ce qu'elle en est dans sa situation. Et pour ça, il faut que je comprenne où est-ce qu'elle voudrait aller, si on peut lui apporter véritablement une valeur ajoutée. Lui notifier qu'on aime à dire qu'on choisit nos clients et qu'on n'a pas peur de dire non. Garder cette position de leader pour montrer que c'est quand même nous les recruteurs et qu'on a le choix de prendre sa candidature ou non. Le deuxième point, après avoir expliqué en quoi ça va consister et que si effectivement si ça l'est profitable, on lui fera démarrer sur l'accompagnement aujourd'hui, ça va être aussi donc de pouvoir comprendre un petit peu sa situation, donc poser des questions situationnelles, poser des questions de qualification, s'assurer qu'il y a cet état d'urgence, s'assurer quelle est la salle décisionnaire, mais il y a des manières de poser des questions. On ne va pas simplement lui dire « est-ce que vous êtes la salle décisionnaire ?» Pour moi, c'est des questions qui sont très académiques, très bateaux, ça peut facilement faire peur. Donc, on va trouver d'autres moyens. Ce n'est pas de la manipulation, mais c'est... je dis souvent que l'impact des mots, c'est très, très important. Et l'intonation aussi. Donc, en fait, on peut très bien lui poser la question du style « Est-ce que tu as une famille ?» Si elle te dit « Oui, j'en ai une », ok. La plupart du temps, elle va même développer. « J'ai un conjoint et deux enfants. » Super. Ton conjoint, il est au courant de cet appel ? Oui, oui, il est au courant. Ah, super. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse cet appel à trois ? Pour toi, c'est bon. Et finalement, dans tous les cas, c'est toi qui as la décision. Eh bien, c'est totalement différent de juste dire « Est-ce que tu es la seule décisionnaire ?» Et donc, oui. En fait, on se rend vraiment compte dans le closing qu'il y a plein de façons de closer, mais on a vraiment la possibilité d'utiliser des mots qui nous permettent d'apporter vraiment le message qu'on veut apporter et les intentions qu'on a réellement. Ensuite, le troisième point, ça va être d'aller chercher l'objectif ou la douleur. Le mot douleur, il peut faire peur, mais en fait, c'est le véritable pourquoi, tout simplement, de l'appel. Qu'est-ce qui l'a réellement motivé ? Ça peut être peut-être, admettons, c'est de la perte de poids, le fait qu'elle n'est pas épanouie dans sa vie de femme. Ça, c'est une véritable douleur. Ensuite, l'autre point, c'est aller chercher les conséquences. Les conséquences de ce pourquoi, les conséquences de cette douleur. Admettons, donc, elle n'est pas épanouie dans sa vie de femme, due à son poids. Et par exemple, on ne va pas dire le mot surpoids. Donc on apprend aussi dans le closing à être très attentionné et à faire attention aussi aux mots qu'on emploie parce que parfois ils sont beaucoup trop forts que ce que nous on pourrait penser et le mot surpoids il peut blesser les gens. Donc on va dire vis-à-vis de ta situation par exemple ou de ton challenge et à ce moment-là, donc quand on a des conséquences, ça peut être voilà, admettons, ben, ça fait que j'ai plus d'énergie quand je pars au travail, j'arrive même pas à porter mes enfants, j'ai des problèmes de dos donc des problèmes de santé et quand je me regarde dans un miroir, je me déteste, perte de confiance en soi. Et ça, c'est les conséquences. Quand on a la douleur, on reformule ensuite la douleur et les conséquences, et ensuite, on va aller vers le doute. Le doute qu'elle puisse y arriver seule. Ça fait combien de temps qu'elle est dans cette situation ? Ça fait 3 ans, ok ? Pendant ces 3 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne s'est rien passé ? Comment ça se fait ? Pourquoi ? Et quel est son objectif ? Et cet objectif, quel est son niveau de conscience pour y arriver toute seule à aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, à 3, qu'est-ce qui l'en empêche ? Donc, c'est vraiment voilà, creuser le gap entre sa situation actuelle et la situation qu'elle désire. Et quand on a vraiment le compris qu'effectivement elle ne pourrait y arriver seule, et on lui pose la question et on valide tous ses petits oui, et dès l'instant où il y a un non, alors on s'arrête, on disqualifie, on ne perd pas de temps et on ne lui en fait pas perdre. D'où le fait qu'on a vraiment la décision en fait, et elle, elle a la décision d'arrêter à tout moment. Et elle en a conscience et on le lui a bien expliqué en amont. Après qu'on ait toutes ces informations, dans ce cas-là, on peut aussi qualifier un petit peu le temps. Est-ce que ça a du sens pour elle, le fait d'investir du temps de formation? Est-ce que ça a du sens pour elle de prendre du temps pour elle? Est-ce qu'elle le mérite? Est-ce qu'elle pense le mériter pour valider sa disponibilité mentale et sa disponibilité tout court? Puis valider les finances aussi. Quel est son contexte financier? Où est-ce qu'elle en est? Est-ce que ça a du sens d'investir de l'argent? Si ça n'en a pas, alors on peut raccrocher et c'est OK. Et si ça en a, on peut continuer. Et puis ensuite, on arrivera très rapidement au pitch. Et là, c'est pareil. Je pense, Safia, que tu as déjà... entendu des appels de closing où tu avais des pitchs qui étaient vraiment très condensés, où en fait ils lisaient simplement il y a ça, ça et ça. Et bien justement, il y a des manières aussi de pitcher son accompagnement pour qu'il fasse sens, étant donné qu'on a validé plein de petites check oui avant et qu'on a utilisé ces mêmes mots parce qu'on y croit et parce que c'est vraiment en plus bien sûr l'accompagnement qui est créé comme ça. On va bien sûr appuyer sur les points sur lesquels elle c'est important. Et on va lui dire clairement, eh bien, ce que tu m'as dit, c'est justement ce sur quoi on va travailler. Tout à l'heure, tu m'as dit ça aussi. Eh bien, ça aussi, on l'évoque dans l'accompagnement. C'est l'un de nos piliers fondateurs, etc., etc. Et ensuite, c'est le closing. Et voilà, en gros, un plan d'un appel de closing. C'est très, très simple. Et juste ce plan, c'est ce qui me conduit dans tous mes appels et je n'ai absolument pas de feuilles sous les yeux.
Oui, en fait, je vois à quel point ça te passionne, parce que c'était très fluide, tu vois. Mais alors, en fait, c'est intéressant, parce qu'au final, c'est un peu comme un appel découverte, mais en plus poussé, et plus en plus grande profondeur, tu vois.
Oui.
C'est exactement, pour moi, c'est essentiellement la même chose. Bon, en tout cas, c'est cool, parce que ça a permis d'avoir une idée de ce que c'est, le closing, et surtout de comment ça fonctionne. Je pense que, comme pour tous les métiers, en soi, ça dépend des besoins de chacun. Et surtout, il faut bien choisir les personnes avec lesquelles on décide de travailler, puisque c'est mieux d'avoir des personnes qui vont avoir les mêmes valeurs que nous, puisqu'elles vont représenter notre offre. Donc ça, c'est ce que je retiens aussi. Est-ce que tu peux me parler un peu de même moi, de ce que c'est et pourquoi tu l'as créé? Et ensuite, on pourrait aussi bien dire sûr un mot sur ton livre que j'ai personnellement beaucoup aimé et je tiens à ce qu'on en parle un peu plus en détail.
Merci Safia, oui avec plaisir. Même moi en fait, à quoi ça consiste? C'est simple, quand du coup bon, je suis toujours un petit peu closeuse, à mes heures perdues on va dire, mais je me suis rendu compte que le closing ce n'était pas une finalité. Lorsque je l'ai découvert, je t'avoue que, et je vous avoue, j'avais la sensation que c'était le métier de ma vie et que je ferais ça toute ma vie. Et puis plus les mois sont passés, plus je me suis épanouie dedans bien sûr, mais en revanche je me suis juste rendu compte que c'était pas une fidélité, que c'était simplement un outil de travail et que c'était une compétence que j'avais besoin, c'était aussi surtout une manière de vivre, un état d'esprit, et que maintenant que je l'avais plus ou moins validé, j'allais continuer à me performer et continuer à évoluer là-dedans, mais ce n'était pas réellement qui j'étais, et donc j'ai voulu tout simplement créer mon propre accompagnement, un accompagnement dans lequel j'étais 110% aligné en quelque sorte, et en fait c'est un accompagnement qui est basé sur comment se créer une vie extraordinaire. J'exagère quand je dis ça, bien sûr c'est très marketé, mais en fait ça veut dire quoi? C'est que lorsque je suis devenue maman, je me suis dit ça y est, je suis maman, c'est génial, en revanche je vais faire des compromis et des sacrifices, et je suis prête à ça, et je suis ok pour ça, et je suis ravie. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit mais non, mais tu te trompes en fait, Candice, tu ne dois surtout pas te dire ça. Tu dois continuer à prendre des décisions pour toi, uniquement pour toi, parce que ta fille, elle se calquera à toi. Et lorsqu'elle verra que tu te prioriseras, elle pourra faire de même. Et je n'ai absolument pas envie que Lilia, plus tard, elle sacrifie ses projets et ses rêves pour ses propres enfants. Donc finalement, je me suis rendu compte que oui, on pouvait tout avoir. Alors oui, je fais certains choix, je prends certaines décisions et je m'organise différemment. Mais je continue mes activités, je continue à être maman à temps plein aussi. Et en fait, je me régale. Donc, c'est aussi pour montrer que tout est possible, que oui, il y a vraiment le mot abondance aussi qui est dedans, dans l'accompagnement, ça c'est certain. Comment vivre d'abondance? Comment s'organiser au quotidien? Comment être à la fois une maman warrior et à la fois comment le fait de rien gérer pendant une journée, ben c'est pas grave. Je suis tâchée du matin jusqu'au soir, et ben c'est pas grave. Et le lendemain, je suis super bien sapée, maquillée, et ben c'est top. Mais voilà, décompresser... prendre soin de soi, se prioriser, s'autoriser, parce qu'en fait, surtout nous les femmes, même si c'est un accompagnement autant pour les hommes que les femmes, je mets une petite mention sur nous les femmes, Safia, parce que en fait, voilà, on est plus ou moins conditionné dans la société à être la compagne d'eux, à être la maman d'eux, mais on est aussi nous, femmes en fait, et on a des besoins, on a des désirs, et c'est tout à notre honneur en fait de réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser en tant que femme. Voilà en quoi en gros ça consiste, et puis après, plus précisément, c'est un accompagnement qui est sur 2 mois, avec du coaching individuel, du coaching collectif, et bien sûr après tout plein de petites vidéos et de surprises.
Je trouve ça intéressant que ce soit le reflet de ton parcours, tu vois, et de ton expérience. Et pour le coup, ça rend le truc encore plus génial, puisque forcément, il va y avoir tellement de femmes qui vont se reconnaître, tu vois, dans tout ce que tu viens de dire, et qui vont se dire, bah ouais, c'est ce que je veux, c'est ce à quoi j'aspire. Et je pense que pour les personnes qui ont envie d'approfondir tout ça, ou en tout cas de te connaître davantage, d'en savoir plus sur ton histoire, et de découvrir un véritable parcours finalement de dev perso, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Il faut pas hésiter à aller lire ton livre « Vous êtes capable ». Ça fait combien de temps que tu l'as auto-publié ?
Je me suis auto-publiée le 24 avril et j'ai été best-seller sur la catégorie adoption notamment.
Attends, 24 avril 2022 là ?
Oui.
Ah ouais, c'est tout récent.
Il a été le best-seller du coup depuis le deuxième jour de sa sortie.
Trop bien.
Je suis très très reconnaissante. Merci. Et puis je t'avoue qu'en fait, je pensais pas qu'il y aurait un engouement comme celui-ci autour de mon livre. Je me disais simplement que ce serait un superbe héritage pour ma fille et que la seule chose que je voulais, c'était qu'elle soit fière de moi plus tard. Et voilà, et d'être lue, c'est super beau. J'ai reçu là, il y a quelques jours, un message d'une jeune fille de 11 ans qui me disait avoir lu mon livre, qu'elle l'avait vu dans la bibliothèque de sa maman. Et ça m'a beaucoup touchée parce que, ben, en fait, je vois que j'attire autant des personnes qui ont 11 ans que des personnes qui en ont 75. Et ouais, je me sens très, très reconnaissante.
En tout cas, félicitations.
Aux épreuves que j'ai vécues.
Exactement. Ouais. Félicitations pour ça, parce que c'est vrai que quand on a un aperçu de ton parcours derrière, on ne peut que être content pour toi. De toute façon, pour les personnes qui sont intéressées, je mettrai le lien pour l'obtenir dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir partagé à la fois tes connaissances et en même temps toutes les coulisses un peu du métier de closeuse et de closer, et d'avoir aussi partagé ton parcours. C'était un plaisir de te recevoir sur Build Yourself.
Merci beaucoup, Safia. Je suis très reconnaissante que voilà, tu m'aies permis de faire ce podcast. Vraiment beaucoup. Et j'espère à très bientôt.
À très vite. Et nous voilà à la fin de cet épisode, et j'espère que vous avez une idée très claire maintenant de si le closing est fait pour vous ou pas, d'ailleurs. Comme indiqué, tous les éléments concernant Candice seront dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Build Yourself.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.